Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François Dorcival.
Eh bien, nous avons le plaisir de nous retrouver pour cet éclairage international. Dieu sait que cet éclairage est aujourd'hui nécessaire. Donc, Thierry de Montbrial est en face de moi. Nous sommes tous les deux confrères de l'Académie des sciences morales et politiques. Depuis notre dernier entretien, les événements se sont accélérés tant en Tunisie qu'en Égypte. Quand je dis accélérés, ils ont surtout surgi dans l'actualité internationale, préoccupant l'ensemble des diplomaties occidentales, la française, l'américaine en particulier, l'européenne un peu moins, où l'on voit d'ailleurs que la diplomatie européenne continue malgré les institutions à ne pas trop exister. Mais il me semble qu'il y a là en effet un éclairage indispensable. Indispensable sur une suite d'événements qui se ressemblent et qui sont pourtant très différents. Les événements de Tunisie d'abord, que les Français n'ont pas vu venir, qui se sont développés d'une manière extrêmement rapide, puisque pratiquement en 3 semaines, le régime est tombé. On va examiner avec vous pourquoi. Ensuite, ce qui s'est passé en Égypte, en quoi c'est très différent de ce qui s'est passé en Tunisie. Et nous allons évidemment ensuite poursuivre avec la vision qui est la vôtre de ce que peuvent être les conséquences et comment nous pouvons envisager l'issue de ces crises extrêmement vives, si ce n'est violentes, qui viennent de se dérouler dans ces deux pays. Et puis nous élargirons naturellement la discussion. Alors, Thierry de Montbrial, donc la première question, c'est comment se fait-il que cela ait éclaté comme ça en Tunisie? Comment se fait-il que notre regard n'ait pas été retenu ou attiré sur ce pays? Pour la diplomatie française, c'est l'équivalent d'un trou noir. Pas pour vous, j'imagine, parce que vous travaillez sur ces pays-là depuis toujours, que vous les examinez à fond. Il n'empêche que, bon, nous avons tous été surpris.
Tout d'abord, je crois qu'il y a certains mauvais procès. Je crois que la diplomatie ne consiste pas à prévoir les événements à la minute près, etc. Et en réalité, c'est un mauvais procès parce que toute l'histoire montre que les régimes qui sont voués à disparaître peuvent s'effondrer à n'importe quel moment, mais que la date de leur effondrement est imprévisible. C'est toujours comme ça. Du reste, c'est comme les tremblements de terre et beaucoup de phénomènes naturels. Les spécialistes appellent ça d'ailleurs la non-linéarité, la non-proportionnalité des causes et des conséquences. Il faut distinguer, d'ailleurs Thucydide le faisait déjà, s'agissant de la guerre du Péloponnèse, entre les causes qu'il appelait les plus fondamentales et les causes immédiates. Les causes les plus fondamentales sont connues, on sait où doivent se passer les tremblements de terre, les failles, les rencontres des plaques tectoniques, etc. Mais la datation n'est jamais possible. Alors, je vais vous donner un exemple futur, par exemple, qui est la Corée du Nord. Bon, la Corée du Nord peut s'effondrer à n'importe quel moment. Si ça se trouve, ce sera demain, mais peut-être que dans 10 ans, elle sera toujours là. Alors, il y a d'ailleurs une loi de Tocqueville. Tocqueville a énoncé aussi une loi qui est que lorsque les régimes qu'on appellerait aujourd'hui autoritaires ou totalitaires commencent à se libéraliser, c'est à ce moment-là qu'ils sont particulièrement vulnérables. Et donc, ils sont pris, si vous voulez, dans un étau ou bien ils s'effondrent à terme, à une date indéterminée, ou ils s'effondrent tout de suite parce qu'on commence à les réformer en vue justement d'assurer des transformations. Alors, je vais vous dire, tout le monde savait bien entendu quelle était la nature du régime de Ben Ali, tout le monde connaissait bien la nature du régime de Moubarak, l'Algérie, etc. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, des régimes substantiellement différents entre eux à bien des égards, mais de là à dater l'événement, c'est une toute autre paire de manches. Et alors, il y a un autre aspect aussi, c'est que la proximité de ces pays rend toute intervention extrêmement difficile. Il est beaucoup plus facile quand vous êtes américain de parler de ce qui se passe en Algérie ou en Tunisie que quand vous êtes français pour des raisons qui sont liées à l'histoire, qui sont liées aussi à l'interaction des intérêts, etc., etc.
Et à l'envers, je dirais, nous l'examinerons tout à l'heure, il était plus facile pour les Français de prendre la parole sur le cas égyptien et beaucoup plus compliqué, et on l'a vu, pour la diplomatie américaine d'intervenir. Mais je reviens naturellement d'abord au cas tunisien.
Alors, le cas tunisien est extrêmement intéressant parce qu'il s'agit véritablement d'une révolution populaire. Et je pensais, je lui ai commenté dans le feu de l'action de cet événement, je pensais plutôt à la Révolution française de 1789. De ce point de vue-là, aujourd'hui, s'agissant de la région dans son ensemble, je pense que c'est plutôt 1848, l'analogie à laquelle on pourrait songer. Mais là, on a effectivement eu un incident qui est le suicide
par le feu.
Par le feu. Et la manière dont cet incident s'est propagé jusqu'à renverser le régime était évidemment tout à fait imprévisible. Ce qui est remarquable, c'est que ceci s'est produit, le renversement donc, de ce régime s'est produit relativement sans drame, et que, comme d'ailleurs on pouvait le penser sur la base de l'histoire de la Tunisie, des caractéristiques générales de ce peuple, etc., l'après-révolution semble pour le moment pas trop mal engagée. Il est remarquable aussi que l'armée, qui était modeste dans le cas de la Tunisie, n'a rien à voir avec l'armée égyptienne, bien entendu, mais l'armée a joué un rôle positif. Et d'autre part, on voit bien que ce pays qui a la réputation d'être un pays paisible, un caractère national aimable, etc., etc., on voit bien qu'il n'y a actuellement pas d'esprit de vengeance, de chasse aux sorcières. Et donc, les chances que ce pays retombe sur ses pattes, si j'ose dire, sont assez grandes. C'est extrêmement important. C'est un petit pays où on sait que le niveau d'éducation est très élevé. Et donc, ce qui va se passer en Tunisie, peut être extrêmement important pour la suite des événements et pour voir si effectivement un pays arabe, maghrébin en l'occurrence, peut se démocratiser.
Oui, tout à fait. Quand vous regardez ce qui se produit autour et à proximité immédiate, c'est-à-dire en Algérie, vous imaginez que l'on puisse assister à un délitement analogue, que les structures très anciennes, qui sont quand même très pétrifiées, du régime algérien puisse éclater à leur tour. La jeunesse vous donne une idée d'analogie.
Alors, la situation est extrêmement différente. Je vais vous raconter d'abord une petite anecdote qui ne nous fera pas, je pense, perdre notre temps, qu'on racontait d'ailleurs en Algérie et en Tunisie avant les événements. Il y a deux chiens, un petit chien tunisien très propre, très mignon, avec un joli petit ruban, etc., qui passe la frontière pour aller en Algérie. Il y a un chien crasseux, sale, moche, qui passe la frontière pour aller de l'Algérie vers la Tunisie. Et le chien algérien dit au chien tunisien, mais t'es complètement fou, pourquoi est-ce que tu vas dans ce pays? Et le chien tunisien répond, parce que là, au moins, je pourrais aboyer. Et cette anecdote est très intéressante.
Oui.
Parce que le régime Ben Ali était un régime de fer. Les gens vivaient dans l'ensemble mieux. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés sociales, etc. Et c'est d'ailleurs ça qui était la cause immédiate.
Mieux,
mais dans l'ensemble,
oui.
Ils vivaient nettement mieux, avec un taux de croissance significatif.
Je
parlais du niveau d'éducation, etc., etc. Mais les gens étaient totalement muselés. Il était absolument impossible de s'exprimer. Ce qui n'est pas le cas en Algérie. Car en Algérie, vous avez beaucoup de capacités d'expression. Vous avez une presse qui, naturellement, n'est pas libre, avec un grand L, mais enfin une presse où il y avait quand même énormément de critiques qui peuvent s'exercer. Et donc ceci, c'est une différence. Donc il y a davantage de soupapes, si vous voulez. Alors maintenant, sur le plan proprement institutionnel, la différence considérable, c'est que là, il y a une armée qui est une armée extrêmement forte, ce qui n'était pas le cas en Tunisie. Et cette armée extrêmement forte a mené une guerre impitoyable contre les islamistes depuis le début des années 90. C'est une armée qui n'hésite pas, s'il le faut, absolument à tirer sur la foule. Ça ne veut pas dire qu'elle fasse n'importe comment. D'ailleurs, ces jours-ci, on a vu au contraire une réelle retenue. C'est une armée qui tient toutes les commandes. Ce n'est pas une armée populaire, contrairement au cas égyptien dont nous reparlerons après.
Tout à fait.
Mais disons qu'à court, moyen terme, je crois qu'il est extrêmement difficile d'envisager que le régime algérien puisse être renversé par un mouvement de rue. Cela dit, je pense que si les autorités algériennes, si le pouvoir algérien ne lâche pas quelque chose et ne s'engage pas dans un minimum de réformes, il sera rattrapé par le mécontentement tôt ou tard. Et c'est là d'ailleurs où on retrouve la loi de Tocqueville dont je parlais.
Du moment de cette réforme précisément.
Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand exactement va être levé l'état d'urgence, mais il devrait l'être incessamment si l'on en croit les déclarations qui ont été faites. Ce sera déjà un premier test.
Au fond, ce qui court d'une capitale à l'autre ou d'un pays à l'autre et qui rend des comparaisons possibles, même si elles ne sont pas valides, c'est le rôle de l'armée. Vous venez d'en parler pour la Tunisie, dans la solution, si je puis dire. L'armée, à un moment donné, a dit à Ben Ali, qui était soutenu par un appareil policier de service de renseignement, maintenant c'est fini. Et donc c'est elle qui permet la transition. En Algérie, c'est une armée institutionnelle, c'est une armée qui incarne l'autorité et le pouvoir. En Égypte, c'est une armée populaire. Cette armée est quasiment la colonne vertébrale de l'Égypte depuis longtemps, puisque Moubarak en était issu, et le Conseil suprême militaire, qui assure maintenant sa succession, incarne également cette armée. Alors, nous avons vu comment les événements tunisiens se sont déroulés. On a vu également que la situation était très différente en Algérie. Revenons sur le déroulement et l'explication de ce qui se passe en Égypte.
Alors, il y a deux points qu'il faut rajouter à tout ce que nous avons dit précédemment. Le premier, qu'on ne soulignera jamais assez, c'est le rôle des réseaux sociaux, le rôle des nouvelles technologies de communication. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. On l'a vu déjà un certain nombre de fois précédemment, y compris d'ailleurs à Téhéran, lors des dernières élections présidentielles truquées. Mais cela, on peut penser que ça va jouer un rôle de plus en plus grand dans le monde entier et dans tous les régimes autoritaires. Et d'ailleurs, les pays, comme y compris en Chine et ailleurs, sans parler de la Biélorussie ou que sais-je, tremblent un peu à cette perspective. Et nous n'avons d'ailleurs pas forcément que des raisons de nous réjouir, parce que si un pays comme la Chine, par exemple, se trouvait déstabilisé, je pense que le monde entier tremblerait sur ses bases, si j'ose dire. Alors donc ça, c'est un point et c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui s'est passé était techniquement très difficilement pensable il y a une quinzaine d'années, par exemple.
Alors, je m'arrête un instant sur ce point parce qu'il est passionnant.
Il est passionnant.
Les réseaux sociaux, c'est la transmission de l'information de manière instantanée et individuelle.
Et explosive en même temps, c'est-à-dire avec une croissance exponentielle.
Cela dit, lorsque la télévision s'est développée, et le grand nombre de chaînes de télévision se sont donc développées, on a vu les frontières qui existaient entre l'Est et l'Ouest disparaître progressivement, parce que précisément, même avec toutes les contraintes que faisaient peser les différents régimes communistes ou soviétiques, ils avaient de la difficulté à se préserver des satellites et donc de la réception des chaînes de télévision, de sorte que progressivement, ces populations ont eu une information à peu près claire, notamment à travers les programmes américains, de ce qu'était le niveau de vie de l'autre côté, de ce qu'était une certaine liberté d'expression de l'autre côté, etc. Mais ceci a pris beaucoup de temps, alors qu'avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est certainement infiniment plus rapide.
Oui, mais il y a des différences importantes au-delà de ce que vous venez de dire. D'abord, il faut rappeler que la comparaison avec les événements de 1989, avec la chute du système soviétique, est une comparaison qui a ses limites. Le système soviétique s'est effondré de la tête. Et on ne va pas refaire l'histoire de ces événements, mais le déroulé, si vous voulez, est totalement différent de ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle. D'autre part, je crois que dans ces technologies actuelles, la grande différence, c'est qu'elles sont extrêmement personnalisées. Si vous voulez, les gens voient ça sur leur portable, ils apprennent à avoir un message d'un ami, etc. C'est très différent de ce côté un peu passif qui est la télévision. Et également, il est beaucoup plus difficile de contrôler, même techniquement, si vous voulez, ces réseaux sociaux, ouais, qu'il ne l'était avec toutes les imperfections.
Ouais.
Voilà. Alors, il y avait un autre point aussi qu'il fallait mentionner, qui fait d'ailleurs que les choses vont être très différentes maintenant, c'est que je parlais de cette retenue des pays proches, en particulier de la France, à s'exprimer vis-à-vis des événements dans des pays comme l'Algérie, la Tunisie, etc. Je crois que ce qui vient de se passer fait que maintenant cette retenue est en train de sauter. Et aujourd'hui même, le moment où nous parlons, je vois que la France demande à l'Algérie de laisser les manifestations se dérouler, etc. Ce type de position publique était absolument impensable il y a encore peu. Alors ça, c'est un point. Ceci va également impliquer des changements. Alors pour revenir effectivement aux différences sur le rôle des armées, parce que c'était ça, je crois, là où nous en étions, le rôle des armées est extrêmement différent d'un pays à l'autre. L'Algérie, nous en avons parlé, l'armée n'est pas populaire, mais elle tient le régime. Et d'ailleurs, elle est détentrice aussi de beaucoup d'intérêts économiques. En Tunisie, c'était une petite armée.
Quelques 30 000 hommes.
Ce qui réellement maintenait la population, maintenait l'ordre, c'était la police qui a joué un tout autre rôle. Et alors, effectivement, nous avons le cas égyptien. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette armée, sa marge de manœuvre était fabuleusement étroite, puisque d'un côté, elle devait se montrer suffisamment solidaire du régime qui en était d'ailleurs une émanation, comme vous l'avez rappelé. et de l'autre, elle ne devait pas s'aliéner la sympathie de la population. Et ce qui est tout à fait impressionnant, je dois dire, c'est qu'ils ont réussi, l'armée a réussi à éviter Charybde et Scylla et à passer entre les obstacles, de sorte qu'elle a effectivement des chances sérieuses de pouvoir assurer une transition paisible. Et alors, on boucle avec tout ce que nous venons de dire précédemment.
Bien sûr.
Parce que si nous étions dans l'ancien temps, on pourrait dire, l'armée, elle va engendrer, il va y avoir parmi le personnel militaire, il va y avoir l'un des généraux
c'est ça.
Qui va s'imposer.
Il y aura Sadat ou un Moubarak.
Il y aura Sadat ou un Moubarak, etc. Sûrement pas le ministre de la Défense qui a 75 ans et qui est un fort brave homme, semble-t-il.
Mais peut-être
enfin,
Souleymane.
Souleymane non plus. Souleymane d'ailleurs est écarté.
Ouais.
Mais enfin, un général de 50 ans ou quelqu'un dont on ne connaît pas forcément l'identité. Mais je pense que ce scénario a fort peu de chances de se réaliser, précisément parce que l'armée ne doit pas s'aliéner la sympathie justement des masses sous peine de voir la reproduction des événements. Et là, elle perdrait totalement le contrôle. Et là, on ne sait pas d'ailleurs où on aboutirait. Et le regard extérieur. Parce qu'effectivement, maintenant, et ça, je crois que c'est un élément absolument capital, et donc je me permets de me répéter, les Occidentaux, qu'ils soient Européens, Américains ou autres, se mettent à parler sans complexe. Et non pas à donner des leçons, mais disons à commenter la situation politique. Notez d'ailleurs au passage qu'il y a certains pays qui se taisent jusqu'ici, qui sont extrêmement peu explicites sur ce qui se passe, et je pense en particulier la Russie.
Oui. Est-ce que, à ce propos-là, vous avez noté une inflexion et une parole plus forte de la Russie ?
Non, je crois que la Russie, d'abord, les événements qui se déroulent là, comme pour tous les régimes non démocratiques, ça les intéresse, si j'ose dire, de l'intérieur. Mais en plus, sur le plan de leurs intérêts extérieurs, ils ont tout avantage à attendre de voir un peu comment ça va évoluer avant de prendre clairement position.
Alors, la question suivante, naturellement, vous en avez beaucoup entendu parler, mais c'est celle qui effraie un peu non seulement les opinions publiques, mais les chancelleries occidentales, c'est de savoir si, à l'issue des élections, les groupes, partis, formations islamistes qui se trouvent dans ces différents pays sont en mesure de s'imposer, s'ils le peuvent, ou s'il y a suffisamment d'obstacles pour qu'ils ne le puissent pas ou ne le veuillent pas. Et donc, quel est votre jugement, votre estimation, tant pour la Tunisie que pour l'Égypte dans ce cas-là ?
Là encore, n'est-ce pas, la situation est très différente puisque, comme chacun sait, en Tunisie, l'éradication quasi totale des forces islamistes font que maintenant les islamistes qui reviennent paraissent un peu ringards, si vous voulez, un peu déconnectés avec la réalité tunisienne, ce qui évidemment n'est pas exactement le cas en Égypte. Cela dit, il ne faut pas non plus sous-estimer le phénomène de génération. Et on en revient un peu toujours au même point. Les gens qui ont fait la révolution en Égypte, ce ne sont pas les frères musulmans.
Non.
Et tous ces jeunes...
Et en Tunisie non plus.
Et en Tunisie non plus. Mais comme le risque est plus souvent
bien
cité
sûr.
À juste titre dans le
en
cas
Égypte,
de l'Égypte, et tous ces jeunes qui se sont manifestés, qui ont utilisé les réseaux sociaux dont nous parlions, etc., ce sont des gens qui n'ont absolument pas envie de passer de la coupe de Moubarak à celle des frères musulmans. Et je pense que les frères musulmans, il y a un décalage de génération, si vous voulez. Je pense que les frères musulmans, ils vont sûrement jouer un rôle. D'ailleurs, ils jouent un rôle
oui.
très important sur le plan caritatif, etc., etc. Mais ils peuvent également, sur le plan sociologique, le voile, les femmes, etc., tout ça, il suffit d'aller voyager depuis longtemps, d'ailleurs en Égypte, pour voir que c'est un phénomène important. Mais de là à prendre le pouvoir, c'est une toute autre affaire. Je pense qu'ils vont surtout chercher à peser, mais en se gardant bien de se mettre au premier rang, parce que là, ils risqueraient de tout perdre. Alors là, on en arrive à un point, à une des autres leçons essentielles de tous ces événements, c'est l'importance du modèle turc. Et je pense que, s'agissant de l'Égypte en tout cas, et d'ailleurs peut-être aussi d'un pays comme l'Algérie ultérieurement, s'il a réussi à se réformer suffisamment, je pense que la démocratisation se fera lentement et à l'ombre de l'armée. Et là-dessus, évidemment, le scénario
turc.
Égyptien
ah,
va
pardon,
être,
oui.
Les événements en Égypte vont être absolument essentiels, parce que c'est là qu'on va voir comment une telle hypothèse peut se matérialiser. Disons que l'hypothèse optimiste, c'est la préparation d'élections relativement démocratiques. Je dis relativement parce qu'on peut jouer
sur
quel parti est autorisé, à partir de quel pourcentage de voix, les découpages électoraux, que sais-je. Et les élections relativement démocratiques, mais avec peut-être une constitution où, pourquoi pas, il y aurait un élément de laïcité qui serait introduit. Tout ça, nous allons le voir. et l'armée n'étant pas au pouvoir, mais se portant garante du respect de la Constitution. C'est ça qu'on appelle le modèle turc. Alors je crois que ce modèle turc, il est extrêmement intéressant et les prochains mois seront très riches à cet égard.
Alors Thierry de Montbrial, vous étiez également à la conférence sur la sécurité qui se tient chaque année à Munich. Vous avez donc entendu les différents interlocuteurs, y compris le Premier ministre britannique. Quel trait majeur retiendriez-vous de ces différents échanges ?
Je pense qu'au moment de la conférence sur la sécurité qui s'est donc déroulée maintenant il y a une dizaine de jours.
Le 5 février.
On y voyait un peu moins clair qu'aujourd'hui. Pendant la conférence, il y a même eu une fausse nouvelle qui a surpris d'ailleurs devant tout le monde. Hillary Clinton, un attentat qui en fait n'avait pas eu lieu contre Souleymane. Vous voyez, et c'était très amusant parce que quand quelqu'un a annoncé ça comme étant interrompu les orateurs pour dire voilà la nouvelle qui vient de tomber, etc. Hillary Clinton a fait semblant d'être au courant alors qu'elle non seulement elle ne l'était pas, mais la nouvelle était fausse, comme je viens de vous le dire. Donc ça fait partie des petites anecdotes dans ce genre de situation. Alors, si vous voulez, je crois que la dominante, quand même, dans les discours, particulièrement marquée chez Cameron et chez Angela Merkel, c'est tout de même la force de la poussée démocratique. Et je pense que, de ce point de vue-là, l'analogie avec 1848, dont je parlais tout à l'heure, mérite d'être explorée, sachant que dans le cas de 1848, c'est la réaction, au bout du compte, qui a largement triomphé. Si vous voulez. Donc c'est pour ça que l'issue, la fin de l'histoire,
n'est jamais dictée d'avance.
Mais disons que moi, ce que j'ai retenu, la première chose que j'ai retenue, intéressante surtout de la part des Britanniques qui, comme on le sait, ne sont pas des enfants de cœur, c'est qu'il faut évoluer un peu la formulation de la politique étrangère dans un sens qui soit un peu moins realpolitik dans le sens classique du terme,
oui.
Sans pour autant tomber dans l'ingénuité des droits de l'hommisme, etc., etc. Et alors ça, c'est un point. Ce qui est également marquant, en particulier chez ces deux intervenants, c'est les doutes exprimés sur les sociétés multiculturelles, en Europe tout au moins.
Cher Thierry, merci beaucoup. Donc, nous nous retrouverons le mois prochain pour suivre...
Il se sera encore passé beaucoup de choses
pour suivre donc la suite de ces événements et d'autres, naturellement. À bientôt. Au revoir.